Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Quelle perspective dans le commerce entre l'Afrique et les États-Unis après les dernières décisions de hausse des tarifs douaniers américains donc décidés par Donald Trump? Est-ce que le marché africain présente vraiment des opportunités ou bien un intérêt pour les États-Unis? Nous en parlons avec notre invité, ce sera dans quelques minutes. Dans le Zoom Express, nous parlerons de production et de consommation d'huile culinaire et alimentaire en Afrique. Est-ce que les économies africaines transforment-elles suffisamment leurs matières premières dans cette filière? Nous en parlerons dans quelques instants. Et notre destination éco de la semaine nous mène au Kenya, sur les rives de l'océan Indien. Le Kenya, une économie incontournable en Afrique de l'Est. Vous entendrez l'analyse de Idriss Lingé, directeur des rédactions de Media Mania. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Mais avant cela, direction Abidjan, la capitale ivoirienne, où se tient la troisième édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire. Cet événement vise à promouvoir les produits fabriqués en terre ivoirienne tout en invitant les populations locales à les consommer pour une croissance socio-économique équilibrée. Écoutons ce reportage de notre correspondante sur place, Mélissa Koné.
Mettre en avant les produits locaux tout en présentant une grande variété de la richesse agricole, culinaire, vestimentaire, cosmétique, électronique, technologique, pharmaceutique et hygiénique faite par des mains ivoiriennes avec le label Côte d'Ivoire. C'est l'objectif principal de la troisième édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire, ici au Parc des Expositions. Initiée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, cette édition a pour thème « Cap sur la compétitivité et l'innovation ». Docteur Souleymane Diarasouba, ministre du Commerce et de l'Industrie.
Les produits locaux jouent un rôle essentiel dans le développement économique de notre pays, car ils créent des emplois, soutiennent des petites et moyennes entreprises et contribuent à la croissance économique locale. En choisissant des produits locaux, nous investissons dans notre communauté et renforçons l'inclusivité de notre économie.
Pendant 5 jours, 160 exposants, au travers de cette foire, vont promouvoir les compétences du Made in Côte d'Ivoire, permettre à l'industrie, à l'innovation et à la créativité ivoirienne de rencontrer les consommateurs et de montrer aux investisseurs les capacités de production et de transformation des entreprises ivoiriennes. Aimé Kablan-Kwazan, commissaire général de la FOMSI.
L'institution de la FOMSI se présente comme une vitrine exceptionnelle pour valoriser le savoir-faire ivoirien, renforcer les chaînes de valeur locales et stimuler l'économie nationale.
Cette grande manifestation commerciale permettra de sensibiliser le grand public aux avantages de l'achat de produits locaux en termes de qualité, de fraîcheur, de goût et de soutien à l'économie locale. Conan Kwame Jean-Luc, artisan.
La matière que nous utilisons, c'est les fils coton. Vous voyez déjà en Côte d'Ivoire, il y en a les plantains coton. Et le planteur coton, il finit de planter le coton. Nous aussi, on prend pour confectionner le pain. Vous voyez que ça tourne. Ça veut dire qu'encore du voie ici, on a tout ici. Il suffit d'organiser seulement. Vous allez voir ce que les Ivoiriens peuvent faire. Ils vont faire de merveilles, c'est tout.
Réduire les importations et créer de l'emploi à partir des richesses propres du pays, c'est ce que se veut la FOMSI sur la base de ce rendez-vous incontournable de la valorisation des produits made in Côte d'Ivoire. Mélissa Koné, Abidjan, Mehdi 1.
Coémergence, l'invité.
Et nous avons le plaisir de retrouver François Conradi, économiste senior à l'Oxford Economics Africa. Avec lui, nous allons parler des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Quelles perspectives pour le commerce entre l'Afrique et les États-Unis après les dernières décisions de hausse des tarifs douanières décidées donc par le président américain Donald Trump? Est-ce que le marché africain présente-t-il vraiment un intérêt pour les États-Unis? Nous en parlons donc avec François Conradi. Bonjour à vous, François Conradi, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Omar.
Alors, tout d'abord, peut-on dire que les pays africains ont globalement été épargnés par les taxes douanières de Donald Trump?
Aucun pays n'a été épargné tout à fait des taxes. Donc, au minimum, il y a une taxe de 10% qui a été instaurée. Mais le plus grand nombre des pays africains seront donc assujettis à cette taxe de 10% parce que ce sont des pays qui ont un déficit commercial bilatéral avec les États-Unis. Donc, les tarifs au-delà de 10% ont été annoncés pour les pays qui ont un excédent commercial avec les États-Unis bilatéral. Et donc, le tarif va en croissant en proportion à cet excédent. Les tarifs ont été les plus élevés pour les pays qui ont le plus grand excédent commercial en relation avec leur exportation totale.
Ce qui n'est pas le cas donc des pays africains.
Certains, si. Certains ont été durement frappés. Le Lesotho a vu un tarif de 50% annoncé, c'est le plus élevé au monde. Madagascar, 47%. Et il y a aussi certains autres pays d'Afrique australe, Botswana, 32%, Afrique du Sud, 31%, et Angola, 32% annoncé. Donc, assez élevé pour faire une grande différence.
Donc, une sorte de barrage donc, à ces produits vers le marché américain. Alors, on a aussi parlé du cas du Maroc avec ses 10%. On sait que le Maroc est ou était lié, si entre guillemets on ose dire, est lié disons, donc par un accord de libre-échange avec les États-Unis. C'est le cas aussi pour certains pays africains dans le cadre de l'AGOA pour les produits agricoles. François Conradi, est-ce que ces accords de libre-échange sont toujours d'actualité désormais avec ce que vient de décider Donald Trump?
Je ne sais pas. Donc, là, on peut croire qu'il va y avoir des procédés auprès de l'Organisation mondiale du commerce, parce que là, on parle de traité. Si la Maison Blanche a décidé de suspendre ces traités, c'est plus compliqué que ça. On peut penser qu'il y aura des procédés diplomatiques qui vont être lancés. Avec l'AGOA, c'est différent. L'AGOA, c'est une loi qui ne regarde que les Américains, donc ils sont libres de suspendre à tout moment. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ces tarifs annoncés annoncent la fin de l'AGOA. C'est maintenant terminé. Et les pays qui ont le plus bénéficié de l'AGOA, donc encore une fois les Lesotho ou encore Madagascar ou l'île Maurice, vont être le plus fortement frappés et surtout leur filiale de textile où il va y avoir des sociétés qui vont devoir fermer.
Des sociétés donc de textile qui vont devoir fermer. Justement, François Conradi, on s'est toujours intéressé sur l'intérêt des Américains pour le marché africain, ce qui, en tout cas au regard des autres parties du monde, ne semble pas aussi grand. Dites-nous, qu'échangent globalement les États-Unis et les pays du continent?
Même si les États-Unis sont exportateurs d'énergie nette, ils importent des produits énergétiques de certains pays africains, dont notamment l'Angola. Ce commerce-là, les produits énergétiques, ne sont pas concernés par les tarifs annoncés hier. Donc, ce commerce-là va continuer. Pour le reste, les exportations américaines vers l'Afrique, il y a beaucoup de produits finis. Il y a pas mal de produits agricoles, surtout l'huile de soja, dans certains pays le maïs. S'attendre à ce qu'il y ait une réciprocité, que les pays africains maintenant vont annoncer des tarifs en réaction à ce que vont mettre en place les États-Unis. Mmh. Mais l'intérêt des États-Unis pour l'Afrique, c'est plutôt dans l'investissement. Ils aiment bien ramener du capital pour acheter des sociétés africaines pour avoir ces flux. Mmh. Donc là aussi, on peut s'attendre à un regain de protectionnisme africain envers les États-Unis en réaction à ce qui vient de s'annoncer pour le commerce.
Le tarif douanier, donc, dans le commerce. Oui. Alors, une dernière question, François Conradi. Je rappelle que vous êtes économiste senior à l'Oxford Economics Africa. Vous êtes basé à Casablanca. Alors, quelle perspective voyez-vous donc dans l'évolution de ces relations commerciales entre le continent et la première puissance économique mondiale?
C'est du jamais vu. Hein. Là, les tarifs qu'ont annoncé les États-Unis sont plus élevés que qu'il y avait dans les années 1930, hein, la dernière décennie où on voyait ce genre de protectionnisme global. Il faut voir. Il faut maintenant regarder comment vont réagir la Chine et les autres pays du monde en mettant en place d'autres mesures. Les pays maintenant dont les importations ne vont plus être compétitifs aux États-Unis, où est-ce qu'ils vont les envoyer? Mm-hmm. Est-ce qu'on va avoir un dumping de produits chinois, vietnamiens ou cambodgiens vers d'autres pays du monde, avec les sociétés qui cherchent maintenant des débouchés de manière urgente? Mm-hmm. Tout est très... Il n'y a aucune certitude. Hein. C'est les commerciaux de sociétés exportatrices de par le monde sont dans la panique. C'est du jamais vu. Et bien sûr, les gouvernements vont être protectionnistes à leur tour. Et on rentre dans une perspective d'économie globale qui va ralentir. Ça a toujours un impact sur l'Afrique parce qu'on dépend des prix des matières premières. Mmh. Et ces prix-là vont baisser. Mmh. On peut s'attendre à ça.
Alors que beaucoup donc d'économies africaines, comme vous le dites, donc comptent sur ces matières premières. Merci à vous, François Conradi.
Merci, Omar.
Je rappelle que vous êtes économiste senior à l'Oxford Economics Africa. Vous êtes basé à Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, Omar. À bientôt.
À bientôt.
Zoom Express.
Dans le Zoom Express, nous parlons de production et de consommation d'huile culinaire et alimentaire en Afrique. Est-ce que les économies africaines transforment vraiment ou suffisamment leurs matières premières dans cette filière? Nous en parlons avec Djamilatou Sow, qui est la patronne du comptoir commercial Retour à la Maison, CCRM, qui est active donc dans ses activités, puisqu'elle dirige donc cette entreprise spécialisée dans la culture de tournesol et sa transformation sur toute la chaîne. Bonjour à vous, Djamilatou Sow, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, avec plaisir. Merci à vous.
Plaisir partagé. Nous sommes aussi avec Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, qui connecte les diasporas africaines et les différentes diasporas basées en Afrique pour donc favoriser les investissements. Bonjour à vous, Moustapha El Bouri.
Bonjour.
Donc, avec vous, nous allons parler de ces huiles culinaires et alimentaires transformées en Afrique. Alors, tout d'abord, Djamilatou Sow, parlez-nous du comptoir commercial Retour à la Maison.
Alors, Comptoir commercial Retour à la Maison aujourd'hui est une structure qui développe la culture du tournesol au Sénégal. Ça veut dire pionnier de cette culture au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes la première entreprise qui a décidé de cultiver le tournesol au Sénégal, sachant que les huiles de tournesol sont importées majoritairement au Sénégal, donc aucune production locale. Nous nous sommes dit, mais pourquoi pas ne pas le faire au Sénégal? Et c'est de là qu'on a cherché à avoir un agronome spécialiste dans ce domaine qui a fait la formation à nos agronomes sénégalais qui aujourd'hui suivent toutes les différentes étapes, à savoir la semise, la germination, la floraison, la pollinaison et aujourd'hui la phase récolte. Mmh. Donc nous visons à monter une unité de production qui va nous permettre de maîtriser toute la chaîne de production, mmh. à savoir de la culture à la transformation, donc de la graine à la bouteille et mmh. de la fourche à la fourchette.
Mmh. De la fourche à la fourchette. Alors, ce marché est-il africain ou plutôt étranger par rapport à ses débouchés?
Alors aujourd'hui, je pense que l'ambition de CCRM, en tout cas sur les 5 années à venir, c'est de s'internationaliser. On va d'abord maîtriser le marché sénégalais, après passer dans la sous-région. Donc on a de grands besoins sur ces pays également, qui eux aussi importent majoritairement, mais nous visons vraiment à s'internationaliser dans les années à venir.
Donc, objectif, donc export et s'internationaliser. Alors, Moustapha El Bouri, justement, parlez-nous de cette filière-là en Afrique et de son potentiel, notamment en termes de culture et de transformation.
Oui, Omar. Déjà, pour donner quelques chiffres, il faut noter que le marché africain des huiles alimentaires, au jour d'aujourd'hui, il est estimé à environ 8 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et tous les experts du domaine ils s'attendent à ce qu'ils atteignent au minimum 11 milliards d'ici 4-5 ans. Donc c'est vrai que c'est un marché très très important. Maintenant, il y a beaucoup d'huiles alimentaires sur le continent. Et bon, il faut noter que c'est vrai que la principale huile qui est utilisée au jour d'aujourd'hui, c'est l'huile de palme, qui est bon, bien sûr qui est transformée. Mais maintenant, le consommateur cherche d'autres huiles aussi, parce que chaque huile a ses vertus. Je pense que Diamil Atou nous en dit un peu plus. Bon, l'huile de tournesol est très connue pour elle est riche en oméga 6, par exemple. Donc, le marché de l'huile alimentaire sur le continent présente un potentiel de croissance qui est très, très important. Mmh. On parle de croissance à 2 chiffres annuels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la transformation, Omar, bon, on transforme, bon, à part, encore une fois, à part l'huile de palme, les autres huiles ne sont même pas transformées, même pas à 5%. Et là, il faut savoir aussi que il faut quand même pas mal de graines, hein. Bon, Diamil Atou, je pense qu'elle pourra nous le dire aussi. Oui. Il faut vraiment près de 2,5 à 3 kilos de graines pour 1 litre. Donc, il faut vraiment, il faut produire de la graine là derrière. Mais la demande aujourd'hui, la demande en graines tournesol en Afrique, c'est vrai qu'elle est vraiment largement supérieure à la production actuelle. Il faut savoir aussi que l'Ukraine, c'est l'Ukraine et et la Russie qui assure 90% d'exportation d'huile tournesol sur l'Afrique. Et bon, avec ce qui se passe aussi en Ukraine actuellement, donc c'est vrai qu'on a eu quelques soucis. Voilà,
peut-être, exactement. Alors, justement, Djamila Toussou, vous qui êtes la patronne du comptoir commercial Retour à la Maison, le CCRM, alors, est-ce la culture de tournesol, justement, ou de ces de ces graines qui produisent les différentes huiles, est-ce facile à réussir ou bien à maintenir pour avoir un bon rendement sur le continent?
Alors, le rendement du tournesol est de 40%. Donc, comme l'a si bien dit Moustapha, ce n'est pas un grand rendement. Mais compte tenu de toutes ces valeurs nutritionnelles, nous, on a décidé de se spécialiser dans ce domaine parce que je crois profondément que le succès ne se mesure pas seulement en termes de chiffres, mais aussi en termes d'impact qu'on peut avoir. Donc, on sait qu'au Sénégal, on utilise beaucoup, beaucoup l'huile. Donc, moi, je me suis dit, je vais produire une huile de qualité, donc à savoir le tournesol, qui a beaucoup de vertus nutritionnelles. Donc, le rendement n'est pas énorme, mais nos terres sont très adaptées à cette culture. Pour le tournesol, il faut du soleil. On en a suffisamment en Afrique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Le tournesol s'adapte généralement à tout type de sol. Par exemple, un exemple, d'habitude, on fait la semis du tournesol en mai, mais au Sénégal, on a osé le faire en janvier et on a eu de beaux résultats, juste parce qu'on a suffisamment de soleil.
Justement, disons, les conditions climatiques sont favorables au développement de ces cultures.
Très favorables.
Donc, alors, Moustapha El Bouri, en termes d'investissement, voyez-vous un intérêt des investisseurs par rapport à cette filière-là et peut-être en termes de rentabilité, qu'est-ce qui s'y dégage?
Oui, Omar, en fait, je pense qu'il faut noter qu'il y a 2 choses. Il y a l'huile qui est cosmétible. Donc ça, comme vous l'avez noté, c'est vraiment une opportunité pour tous les entrepreneurs agricoles africains de créer des entreprises qui sont rentables, bien sûr. Mais moi, je pense aussi qu'il y a aussi l'autre partie, parce que toutes les cosses, par exemple, les cosses de tournesol, des graines, là, elles sont également utilisées. Elles sont utilisées pour fabriquer les aliments des animaux, pour faire du cirage, même du cirage, on fait du charbon de bois avec. Donc, je pense que, justement, il y a un grand intérêt des investisseurs dans son domaine, parce qu'en fait, on arrive vraiment à renforcer toute la chaîne de valeur de ce produit-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a l'huile, c'est vrai. Mais tout le reste aussi peut être utilisé justement pour combler ce que disait Diamil Atou, peut-être le rendement qui n'est pas très très élevé. Mais il y a ça aussi donc à travailler. Donc je pense que c'est vraiment un intérêt certain pour les investisseurs. Mmh. Et comme disait aussi donc Djamil Atou, on a les terres qu'il faut. Il faut noter aujourd'hui que l'Afrique, c'est vrai qu'on le répète souvent cette phrase-là, l'Afrique a la capacité de nourrir le monde, est-ce qui est vrai? Parce qu'aujourd'hui, elle détient près de 70% des terres arables, non exploitées dans le monde. Mmh. Donc en fait, le potentiel, il est énorme. Mmh. Il est énorme.
Mmh. Le potentiel est énorme. Une dernière question pour Djamil Atou Sow. Avez-vous des besoins d'investissement aujourd'hui pour une expansion beaucoup plus rapide?
Alors oui, clairement. Mmh. Surtout si on vise à s'internationaliser et aussi à ravitailler toute l'Afrique. En tout cas, aujourd'hui, comme l'a si bien dit Mustapha, il y a beaucoup de dérivés sur le tournesol. Rien n'est jeté parce qu'après extraction de l'huile, on a les tourteaux du tournesol. On peut faire du miel de tournesol. On peut faire du beurre de tournesol. Donc, rien n'est jeté. Et c'est quand même, si on le compare en tout cas aux importations, le fait de s'industrialiser est beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus rentable. Mmh. Clairement, mais oui, on vise à une expansion de cette unité.
Donc, c'est à suivre. Merci à vous, Djamil Atou Sow. Je rappelle que vous êtes la patronne du comptoir commercial Retour à la maison CCRM, qui est spécialisé dans la production et la transformation du tournesol. Vous nous parliez donc de cette expérience-là. Merci également à Mustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, qui connecte les investisseurs de la diaspora. Merci d'avoir été avec nous dans Coémergence.
Merci, à très bientôt.
À très bientôt.
Destination Éco.
Notre destination éco de la semaine nous mène au Kenya, un important marché de plus de 50 millions de consommateurs en Afrique de l'Est. Le Kenya, qui dit le Kenya, pense certainement au secteur touristique, notamment les safaris. Le Kenya offre aussi pas mal d'opportunités d'investissement. Et c'est ce que nous dit Idriss Lingé, directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin, spécialisée dans l'économie et la finance. Idriss Lingé, à vous la parole.
Bonjour Omar Baldé, bonjour à tous les auditeurs de Midi 1 Radio. Aujourd'hui, nous partons au Kenya. Pour les Marocains qui ne savent pas, le Kenya est un pays de l'Afrique de l'Est qui est bordé par l'océan Indien, oui, au niveau du port de Mombasa, mais aussi qui a la frontière avec un grand pays en termes de superficie comme la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan du Sud, l'Éthiopie au nord et la Somalie. La capitale du Kenya, c'est Nairobi. Et ne vous y trompez pas, le Kilimandjaro, c'est pas au Kenya, mais c'est en Tanzanie. Sauf que la voie la plus simple pour y accéder, c'est en passant par le Kenya. Et aussi, Nairobi est un centre économique et commercial majeur sur le continent africain.
Merci à vous, Idriss Lingé, directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur nos plateformes Media Podcast et sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Media et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.